Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024, il est 21h sur Radio Canu. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéo ludique. Comme chaque semaine, vous retrouvez notre équipe composée par moi-même, Xavier, et par Romain. Salut Romain.
Salut Xavier.
Est-ce que tu as froid ?
Moins maintenant. Ça y est, il fait bon là ici.
Oui, amis lyonnais, c'est le moment. C'est le moment de mettre des bonnets, de mettre les mitaines et tout le tintouin. Parce que
ça meule.
Ah ouais, on se les pèle, quelque chose de concret. Donc c'est bien de rester chez soi et de s'intéresser à l'industrie du jeu vidéo, voire de jouer à des jeux vidéo. Et donc au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle chez les jeux disponibles sur Steam. Nous allons parler des dernières décisions de Netflix pour sa section jeux vidéo. Et enfin, parlerons, j'allais dire de Bobby Kotick, mais non.
Indirectement.
On finira toujours par parler de Bobby Kotick. Non, on parlera d'un jeu qui s'appelle Daggerfall.
Et oui, mais qui parlera aux plus anciens, mais on expliquera et ça qui voilà, même les plus jeunes devraient comprendre le lien avec l'actualité et les jeux les plus récents.
Exactement. Je t'en prie, Romain, parle-nous d'abord du rapport entre l'intelligence artificielle et une entreprise qui s'appelle Valve.
Alors Valve donc qui est la boîte qui possède, enfin qui gère Steam.
Oui, Steam,
le fameux
donc
magasin dématérialisé. Après avoir pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière finalement, déclaré et interdit sur son magasin les jeux développés à l'aide de l'intelligence artificielle. Mmh. En précisant l'an dernier, en réponse à un développeur qui proposait son jeu, pourquoi il lui refusait le fait de vendre son jeu sur la plateforme, précisant qu'ils étaient encore en phase de réflexion sur le sujet. Et du coup, là, il y a deux jours, je crois.
C'est ça.
Ils ont changé d'avis. Ils ont complètement même retourné la situation. Déjà en juillet 2023, ils déclaraient ne pas vouloir décourager l'usage d'intelligence artificielle dans la création de jeux vendus sur Steam. Maintenant, ils ont carrément déclaré que la grande majorité des jeux créés avec de l'IA seront autorisés. Ils ont ouvert la porte en très très grand, avec plusieurs, pas barrières, mais peut-être plusieurs garde-fous, j'ai presque envie de dire. Mmh. Ils demandent en fait tout simplement aux développeurs de déclarer que leur jeu a bénéficié de l'aide de l'IA pour être produit, et quelle partie, comment est-ce que finalement ils ont intégré l'intelligence artificielle à leur processus de création. Donc le texte exact, en gros, c'est après avoir passé plusieurs mois à en apprendre plus sur le sujet et à en discuter avec les développeurs de jeux vidéo, nous faisons le changement qui nous permet donc de gérer et d'accepter sur le magasin les jeux qui utilisent la technologie de l'intelligence artificielle. Ce qui en fait permettra surtout au niveau du consommateur, au niveau du joueur, de consommer du coup en toute connaissance de cause. Puisqu'il aura l'information, Valve compte sur la bonne volonté des développeurs, en tout cas pour être transparent sur le sujet. Alors, j'ai un petit mon premier bémol là-dessus, c'est que personnellement j'ai déjà repéré plusieurs dizaines de jeux qui utilisent plus ou moins ouvertement de l'IA pour générer des graphismes ou du contenu. Je pense à un jeu qui s'appelle Vaudeville par exemple, un jeu d'enquête qui assume et qui le dit clairement être fait à partir d'IA du début à la fin, soit les graphismes, le texte, les voilà le développement de du scénario. Je pense à Eranor's Renaissance, donc qui est la suite d'une série de jeux de stratégie, enfin de jeux de à moitié roguelite, à moitié RPG, qui fait beaucoup penser à Darkest Dungeon, qui a déclaré il y a pas longtemps donc utiliser l'intelligence artificielle pour certains types de graphismes, pour une partie des graphismes, et qu'il l'assumait complètement. Je pense notamment, je sais pas moi, à Settlement Survival, qui est un de mes city builders préférés, qui depuis une dernière mise à jour utilise clairement, alors sans le préciser nulle part, un jeu développé par une entreprise chinoise qui utilise l'intelligence artificielle pour générer les visages des habitants du village, ou jusqu'à Spaceborne 2, qui est un space opéra, voilà, un jeu complètement monde ouvert dans l'espace où on passe son temps à se promener en vaisseau, où les voix directement sont générés par intelligence artificielle. Dans le cas de Spaceborne 2, ça s'entend et c'est pas beau du tout. Enfin bref, il y a évidemment dans le domaine, il y a aussi énormément de choses encore à voir. Mais donc du coup, ça concernera le contenu généré en amont, c'est-à-dire les graphismes, le texte, ce genre de choses, tout comme le contenu qui pourrait être éventuellement généré en direct pendant que le jeu tourne, ce qu'ils appellent le live generated content. Mais du coup, les développeurs devront s'engager à ce que le contenu généré ne contiendra évidemment rien d'illégal et devront préciser quels moyens seront mis en place pour éviter toute génération de contenu illégal, surtout dans le cadre du live generated content.
Et ce qu'ils entendent par illégal, c'est des choses qui seraient déjà copyrightées peut-être ?
C'est là que la précision n'est pas apportée.
Ok. C'est juste des trucs qui sont on va éviter la pédophilie, le racisme, etc.
Je pense que ça fait partie effectivement de leur principale préoccupation avant le contenu copyrighté ou non libre de droit en tout cas, parce que c'est clairement là le cheval de bataille de l'IA, du contenu généré par IA et notamment sur les images,
oui,
qui sont toutes générées parce que entraînées sur du matériel qui existe déjà.
Voilà.
C'est un petit peu toute la problématique de l'IA, de l'intelligence artificielle notamment visuelle, qui travaille à partir d'une base en fait qui existe déjà. Et c'est un peu toute la question. Dans le cas des jeux donc que Steam autorisera, puisque donc la décision vient d'arriver, donc on n'a pas encore réellement de recul sur les jeux qui seront faits avec. En fait, ils comptent sur la bonne volonté des joueurs, puisque ce seront les joueurs qui pourront ou devront signaler, lorsqu'ils soupçonnent que du contenu a été généré ainsi sans être déclaré, ou lorsque le contenu est problématique ou contrevient aux règles de Steam. Ils précisent tout de même qu'ils sont en phase d'observation et que ces règles peuvent changer s'ils constatent des problèmes ou des abus. Il se laisse la liberté de revenir en arrière sur cette décision. Là, pour l'instant, on sent que c'est une sorte de ils ouvrent les vannes en grand, et puis on verra. Si ça se pète la gueule, ça se pète la gueule.
Oui.
Mais voilà, ils continuent à suivre, à apprendre sur des jeux qui sont soumis à l'approbation donc de Steam, et toutes les problématiques légales autour de l'intelligence artificielle, évidemment, et de, comme tu le disais, du contenu copyrighté ou non. La seule restriction officielle qu'il pose, c'est les jeux de catégorie réservés aux adultes ou au contenu sexuel, puisqu'ils ne seront pas capables de contrôler le contenu généré en cours de jeu. Et je pense que, comme tu le disais, ils souhaitent absolument éviter toute problématique notamment de pédophilie, d'images pédopornographiques.
Exactement.
Mais dans l'état actuel des choses, effectivement, c'est la seule restriction officielle annoncée. Et alors, je me permets vite fait une réflexion personnelle là-dessus. Je pense que c'est peut-être un peu tôt, peut-être un peu risqué. Maintenant, j'attends de voir un peu ce que ça va donner, mais j'ai donné l'exemple de Settlement Survival, qui a utilisé l'IA pour une partie complètement accessoire du jeu, simplement les visages de personnages qui sont d'habitants d'un village où il y a 150 personnes, c'est plus pour illustrer quelque chose et pas pour réellement apporter une plus-value en termes de gameplay ou en termes de qualité du jeu. Maintenant, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. C'est une bonne question. Est-ce qu'on va pas voir arriver des jeux complètement générés automatiquement, voire même lancés sur Steam par des bots automatiquement, complètement générés à partir de rien, à partir de Midjourney, à partir de ChatGPT.
Mm-hmm. Des jeux à partir d'un prompt, pourquoi pas. C'est un peu le rêve de beaucoup de game designers, hein, ça.
Ouais. Et alors c'est vraiment le tout début entre guillemets de ça, parce que finalement. C'est le tout début de ce dont on va dire officiellement. Ce qui se dit, c'est que en fait, ils ont cédé à la poussée des éditeurs importants qui travaillent déjà avec de l'IA pour la création de contenu dans les jeux AAA, les jeux des gros studios. On reparlera peut-être bientôt de Ubisoft, Tencent, qui ont acheté qui travaillent déjà sur la création de personnages non joueurs dans leur jeu.
Oui, la création de personnages non joueurs, la génération aussi de phrases automatiques de personnages non joueurs qui seraient aussi générées par
IA et de doublage. Également généré par IA, surtout dans le cadre, en fait, voilà, de phrases d'ambiance. Quand on se trimballe dans un monde où il y a des gens qui parlent, qui font un petit peu qui font leur vie pour te donner une impression de vie. Ce travail-là, effectivement, ils envisagent déjà, et même je pense qu'ils ont déjà travaillé dessus, créer cette partie-là par intelligence artificielle plutôt, évidemment, que de payer des gens pour le faire.
Et oui. Sachant que, comme tu le disais, il y a deux choses que je retiens. Le fait que il y a déjà pas mal de jeux sur Steam avec du contenu généré par IA et qui sont revendiqués. Mm-hmm. Typiquement, pour citer un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps et qui a plutôt pignon sur rue vu qu'il est sorti le 8 décembre dernier, c'est le jeu The Finals, dont toutes les voix sont générées par IA. Toutes les voix qu'on entend dans le jeu sont générées par IA. Après avoir, en termes de copyright, si c'est du purement généré sans base de voix existante, ou si c'est on a pris la voix d'un acteur et après qu'on l'a on a entraîné une IA dessus. Parce que par exemple, à chaque fois qu'on crée une équipe, le nom de l'équipe, elle va être dite par le présentateur,
ouais,
par les présentateurs et par les commentateurs pendant le match.
Oui.
Vu que le principe de The Finals, c'est qu'en fait on a des commentateurs qui vont, c'est censé être une sorte de jeu télévisé.
Ouais, c'est ça, c'est entre le Koh-Lanta et le Fort Boyard.
C'est ça, c'est un jeu télévisé avec avec des plein de mécaniques de team deathmatch, hein, donc de un jeu de tir en équipe, et c'est présenté comme étant un grand jeu vidéo, en fait un grand jeu télévisé ou avec des commentateurs qui commentent en direct. Et donc on reprend le nom des équipes. Si tu crées une équipe avec un nom, le présentateur dira le nom en question. Donc ça ne peut être fait que par IA, parce que ça n'est pas possible de le générer
actuellement, à l'avance.
Voilà. Donc il y avait déjà une grande permissivité de Steam à la base.
Tout à fait.
Et on se souvient notamment que sur d'autres questions, Steam a été beaucoup plus strict, notamment sur la question des jeux play to earn.
Ouais, des jeux qui intègrent les NFT,
qui paient de la crypto-monnaie, etc. Et là-dessus, où Steam avait dit, ça c'est non, et c'est un non négatif, et on reviendra jamais dessus, et c'est mort. Et la première réflexion que ça me provoque, c'est que les différences entre les deux, c'est que sur la blockchain, il y avait potentiellement de l'argent qui aurait pu de l'argent qui aurait pu s'échanger entre joueurs et développeurs, et qui ne passe pas par le système de Steam, alors qu'avec l'IA, en fait, ce n'est pas un problème, vu qu'on est juste sur du contenu. Et que pour moi, en fait, la raison du fait que Steam est beaucoup plus
ouvert
là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de transaction monétaire qui est impliquée dans l'utilisation de l'IA.
Alors, l'avantage, c'est que normalement, si tout le monde joue le jeu, il y aura un minimum d'informations sur le sujet. Ouais. Plus que maintenant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, puisqu'ils ne sont pas censés l'utiliser, donc ils ne vont pas le déclarer.
C'est ça.
Sauf si c'est des petits jeux vraiment confidentiels. Et à l'inverse, il y aura aussi. Enfin, ils ont mis un minimum de cadre. C'est voilà, la situation actuelle. Je pense qu'on le suivra un petit peu, même si.
Oui. Honnêtement, déjà, on verra dans 3 à 6 mois, déjà, qu'on pourra faire. Déjà,
un petit peu un bilan, ouais.
Un bilan.
C'est ça.
Parce que il y a d'un côté effectivement les gros jeux, les gros jeux des grands éditeurs qui on va voir lesquels vont déclarer en premier, ça a été fait par l'IA, et puis de l'autre forcément des développeurs plus indépendants qui vont s'engouffrer dans la brèche, et on va voir justement quels résultats ces jeux auront aussi.
Ok.
Eh ben merci à toi. Abordons désormais un géant des médias, mais peu connu sur la sphère du jeu vidéo. On va parler de Netflix. Netflix, en fait, Netflix, ces derniers temps, on a entendu parler d'eux parce qu'ils cherchent à rentabiliser leur section jeux vidéo. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Netflix a une section jeux vidéo. En fait, en novembre 2021, Netflix a lancé 5 premiers jeux jouables sur mobile à partir de l'application Netflix. On parle de jeux, tous les jeux proposés par Netflix sont des jeux uniquement accessibles sur mobile, donc soit sur iOS, soit sur Android, jouables donc soit sur téléphone, soit sur tablette. Je sais pas si sur Chromecast, sur Chromebook, pardon, ça fonctionne. Probablement que oui, vu que c'est censé être de l'Android.
C'est la même logique, ouais.
C'est censé être de l'Android, mais voilà, ce sont pas des jeux qui sont transposables sur console ou sur ordinateur.
Ouais. Ou même sur navigateur.
Ce soit, c'est des jeux qui soient ce sont des applications pour téléphone. En fait, le principe, il se voulait similaire à l'Apple Arcade qui avait été lancé, lui, en 2019. Et le principe, c'était de mettre à disposition des jeux en échange d'un abonnement. Ici, les jeux, ils sont inclus dans l'abonnement Netflix, peu importe le type d'abonnement. Même l'abonnement, le fameux abonnement à pas cher avec pub inclus, permet d'accéder aux jeux.
Ok, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là.
Il n'y a pas de restriction pour l'instant. Si tu es abonné Netflix, tu as accès à tous les jeux disponibles sur le catalogue Netflix. En fait, Netflix a déployé une variété de jeux vidéo disponibles sur sa plateforme. Et en fait, la bibliothèque, elle continue de croître. On est passé donc de 5 jeux en 2021 à une tétrachie aujourd'hui. En gros, ça se divise plutôt en deux catégories différentes. D'un côté, les jeux extraits de licences liés au contenu Netflix, et de l'autre, des jeux originaux qui sont principalement composés de portages de jeux mobiles bien reçus sur PC ou sur console auparavant. Juste pour donner un peu des exemples pour chaque catégorie, notamment, tu peux retrouver sur Netflix 3 jeux différents Stranger Things, un jeu extrait du jeu de la dame qui est donc un jeu
d'échecs,
pour jouer aux échecs, évidemment. Un jeu de gestion qui s'appelle Narcos Cartel War Unlimited.
D'accord. Voilà. Ils avaient essayé sur PC. Hein.
Oui.
Je sais pas si c'est le même ou si
non, c'est indifférent. Sûr.
D'accord. C'est peut-être mieux du coup.
Je ne sais pas. Pour le coup, j'y ai pas touché à celui-là.
Parce que le jeu sur PC était dégueulasse. Moi, je veux pas balancer. Mais...
Alors, c'est peut-être justement le jeu mobile qu'ils ont mis sur PC, ce qui explique les limitations.
Peut-être.
Mais... visual novels, donc deux jeux plutôt orientés drag sur leur licence de télé-réalité qui s'appelle Séduction Haute Tension.
C'est l'île de la tentation.
Complètement.
Oui, ouais, ok.
Complètement. Et aussi des jeux narratifs comme un jeu Casa del Papel.
D'accord.
qui se définit à peu près comme un Telltale, on va dire. Et un jeu plutôt jeux de rôle light sur la licence Shadow and Bones qui extrait du Grishaverse, le Grishaverse qui sont en fait une liste, enfin une série de livres pour, je vais pas, enfin, ce qu'on appelle young adult, donc voilà,
pour adolescents,
pour adolescents et jeunes adultes, et dont une des parties a été adaptée sur Netflix, et le, d'ailleurs c'était un des jeux que j'ai trouvé le plus intéressant dans les choses très licenciées. Voilà. C'est très très léger, mais enfin voilà, il n'y a pas de grandes mécaniques et tout, mais c'était plutôt intéressant.
Mais du coup, c'est globalement le projet, quoi. Ils ont leur série et ils en font des dérivés.
Exactement.
En jeu vidéo.
Et voilà, ils ont leur série à eux. Ils ont même des séries qui viennent d'autres franchises qui sont pas forcément à Netflix, mais qui sont diffusées sur Netflix.
Oui, oui.
C'est pour ça qu'on a des jeux Bob l'éponge, par exemple.
D'accord.
On a un jeu Transformers, on a un jeu Sonic Prime. Sachant que en un jeu Sonic Prime, sachant que la série Sonic Prime est en exclu sur Netflix.
D'accord.
On a évidemment un jeu Lego, parce qu'à partir du moment où il y a un endroit où il y a un média, il y a forcément Lego qui s'en sert quelque part.
Ils sont partout. Ils sont dans ton salon quand tu marches la nuit et que tu marches dessus sans faire exprès. Enfin,
et quand tu allumes ta télé, il y a de Lego. Quand tu allumes ton téléphone, il y a Lego. Quand tu allumes ton ordi. Quand t'as mis ton ordi, il y a Lego aussi.
Oui.
Voilà. Et aussi un jeu issu de la licence League of Legends, évidemment, parce que grâce au succès de Arcane.
Série tirée de League of Legends.
Ouais. Voilà. Donc ça, c'est tous les jeux où on se dit, oui, c'est normal, c'est lié aux licences Netflix. Mais il y a aussi beaucoup d'autres jeux, en fait, qui sont, comme je disais, composés principalement de portages de jeux vidéo PC, console, des fois directement mobile, mais la plupart vraiment surtout des jeux PC ou console. On en a un bon paquet. L'exemple le plus récent et qui avait eu une nomination au Game Award, le Terranil.
Oui.
Qui est disponible sur Netflix.
D'accord. On exclut Netflix celui-ci.
Non.
Ok.
C'est-à-dire que Terranil, on peut. Alors, sur mobile. Sur mobile, il n'est disponible que sur Netflix.
Mais
en mobile.
Par contre, les autres jeux dont tu parlais n'existent pas sur un autre support, alors que Terranil est sur Steam, par exemple.
Voilà, c'est ça. Les jeux dont je parle, en fait, ce sont des portages.
Ok.
Reigns Three Kingdoms. Donc, Reigns, le fameux jeu de en fait, le fameux jeu de Tinder.
Ouais, c'est ça.
De Tinder narratif.
C'est ça. On te met une situation, tu swipe à droite ou à gauche pour prendre une décision, quoi.
C'est ça. Into the Bridge.
Ok.
Donc, c'est un jeu d'échecs, mais avec des mécas.
Ouais, voilà. c'est vraiment un jeu de puzzle, stratégie tour par tour, quoi.
Voilà. Desta, qui est un jeu de stratégie façon XCOM très light, mais fait par les devs de Monument Valley.
Qui est également sorti sur Steam, ouais.
Exactement. Okay. Football Manager 2024. Mais la version mobile.
Sans surprise. Là aussi, ils sont partout. Hein,
voilà.
Ils ont quand même bien cartonné cette année.
Alors, je sais pas ce qu'il vaut sur mobile, mais l'excellent Spiritfarer, qui est pour le coup est disponible sur n'importe, sur un peu partout, fait par Thunder Lotus Game, les gens qui ont fait notamment.
Pas Jotun.
Jotun, oui, ouais, voilà. Okay. Jotun, l'excellent Jotun. Le Immortality de Sam Barlow.
Ok.
Il n'est disponible en version mobile que sur Netflix. Qu'est-ce que j'avais? Ah, ce jeu dont il faut absolument pas parler, qui s'appelle Farming Simulator 23.
Oui. Oui.
voilà.
On est bien d'accord.
Voilà, pas que ce soit un mauvais jeu, mais pour des raisons personnelles, il faut pas que j'en parle.
Ouais, c'est ça.
Moonlighter, donc okay. Voilà.
On est quand même sur des jeux indépendants, mais du très haut du panier.
Le très haut du panier des jeux indépendants, exactement. Alors, juste une exception à la règle, un jeu mobile qui a eu pas mal de succès, qui est un jeu Game Loft qui s'appelle Asphalt, qui est la licence de jeu de voiture de Game Loft.
Okay.
Donc Game Loft qui est en gros qui a pendant longtemps été la version mobile de Ubisoft.
D'accord.
Donc ils ont une série Asphalt, il y avait Asphalt 8 et là c'est Asphalt je sais plus quelle version, et qui est, ils ont dit tiens, vous voulez un Asphalt, on vous en met une juste pour vous, de toute façon on en a 50 derrière, on s'en fâche. Alors pareil, exclu sur mobile et que j'ai trouvé très très bon, Storyteller. qui est vraiment, pour moi, en fait, c'est sur mobile qu'il est le mieux, parce qu'il est vraiment fait pour
ouais,
ça.
Il est adapté à ça.
Il est vraiment adapté à ça.
En fait, c'est un jeu où on doit raconter une histoire à partir de cases.
C'est ça.
Comme les cases d'une BD. Ouais. Et on va, en fait, peupler chaque case avec des éléments. Avec, souvent, c'est le roi, la reine, un couteau, quelqu'un au bord d'une falaise, qui sait qui pousse l'autre.
Enfin, c'est ça, voilà. C'est exactement
et
ça.
On doit, en fait, créer l'histoire qu'on nous demande de créer.
Exactement.
À chaque niveau.
C'est ça. Sachant qu'il y a plusieurs manières de faire, ouais. Et puis qu'il y a des modificateurs, etc.
Oui, effectivement, on est vraiment sur de la voilà, on prend une case, on la met là, on la déplace avec les...
Ah ouais, non, mais ça marche super bien. Ça me fait penser à un ancien jeu qui s'appelait Framed, qui marchait très bien sur ce principe,
sur une ambiance BD. Ouais.
C'est ça. Mm. Et non, là,
mais
ça...
comics plutôt.
Ouais, comics, ouais. Et là, ça, mais Storyteller marche super bien. Mm. Alors, un jeu, je m'y attendais pas du tout, l'ancêtre des jeux indés. World of Goo.
Ah oui.
Et oui.
Ah, il est vraiment partout.
Il est partout, partout.
Le 2 sortirait cette année d'ailleurs.
Ouais, World of Goo bientôt sur ton grip. Hein.
Ah bah je pense que vu les caractéristiques techniques, oui, il peut. Hein.
Il y a grave moyen.
Il peut marcher sur ta calculatrice de quand t'étais au collège.
Un jeu que t'avais beaucoup apprécié, Reggie the Ancient Epic.
Oui, enfin j'ai pas.
T'avais apprécié la démo,
oui.
Un jeu d'action pour le coup.
Ben, ouais, alors ça j'ai plus de mal à l'envisager.
C'est
sur,
pareil.
Sur support,
en fait, ça fait partie des choses. Il y a pas mal de jeux. On se dit, ok, ça a bonne réputation, mais pourquoi sur un mobile?
Ouais.
Kentucky Route Zero.
Ouais, là on est vraiment dans le narratif, donc.
Donc ok. Par contre, Dead Cells. Pourquoi?
Ah ouais.
Vu l'exigence du jeu, vous êtes sûr?
C'est une bonne question. Faudrait demander aux gens qui ont essayé ça.
C'est ça. Pareil, Death Door.
Ok. Ouais,
bon jeu, hein, pas le souci.
Ouais, ouais.
Même question. Jeu isométrique, un peu, on va dire, un Dark Souls isométrique, où on joue un pigeon.
Bienvenue dans le monde du jeu vidéo.
Voilà, mais qui est très bon.
Ouais.
Mais pareil, très exigeant, donc assez étonné.
Par rapport aux limites techniques des contrôles liés au téléphone. Oui.
Exactement. Et on va rentrer dans des jeux plus connus. Un jeu auquel forcément on s'attend, c'est Oxenfree 1 et Oxenfree 2. Pourquoi? Parce que le studio Nice School Studio a été racheté par Netflix.
Complètement.
Donc il était logique de retrouver ses productions dedans. Un jeu Tomb Raider Reloaded. Qui s'est retrouvé là-bas. Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge.
Ok.
Voilà.
Le dernier.
Voilà, le tout dernier. Pareil, un beat'em up à l'ancienne, de chez à l'ancienne, mais très très bon. Pareil, la précision demandée pour ce type de jeu, est-ce que c'est adapté pour du téléphone?
Après, je fais confiance à Dotemu pour faire quelque chose de cohérent, mais oui, c'est étonnant, oui.
Voilà. Et la dernière annonce récente, qui est la trilogie GTA, donc GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas.
Ok.
Qui sont tous les droits disponibles donc sur le service, annoncé en grande pompe. Et ma question est, qui va y jouer sur son téléphone?
C'est une bonne question.
Voilà. En tout cas.
Mais je pense qu'il n'y aura personne pour y répondre.
Voilà. Clairement, on est sur. Clairement, en tout cas, on a. Et là, j'ai fait juste une sélection. Parce qu'il y en a une tétrachée en plus.
Ouais, mais on est déjà sur un éventail très varié.
Ouais.
Et de qualité.
Exactement, c'est ça. En tout cas, de qualité vidéoludique claire sur la partie les jeux qu'on connaissait d'ailleurs entre guillemets.
Ouais. Mais de l'indépendant comme du triple A.
De l'indépendant comme du triple A, mais surtout des jeux qui sont pas forcés, où on se dit pas forcément tiens sur mobile. Vaut le coup. Certains, oui, on a parlé de Storyteller, on a parlé d'autres jeux à tendance narrative. Par contre, des jeux très typés action avec précis, demain on me dit oui, j'ai mis Fury sur mon téléphone, pourquoi? Pourquoi faire?
Déjà, jouer à Fury, c'est déjà être un masochiste.
Oui, c'est ça.
Mais sur téléphone, là, on passe un cap.
Mais oui, non, mais c'est ça. Bah oui, bah, moi je joue à Dark Souls sur mon téléphone,
oui,
exactement.
Voilà. J'y joue sur les bongos de Ted. De la Nintendo.
Oui. Il faudra qu'on parle de Speedon, mais oui,
voilà.
Il y a un peu ce genre de truc, ouais.
C'est ça.
Et donc voilà, en tout cas, l'une des forces de l'offre, c'est vraiment de proposer des jeux, de proposer tout ce tas de jeux. Tu t'abonnes une fois et t'as un sacré paquet de jeux très intéressant et très qualitatif.
Et comme tu l'as dit, c'est pas un abonnement supplémentaire.
C'est pas un abonnement supplémentaire, c'est ouais. inclus dans l'offre, hein, pour le coup. Mmh. Et c'est là, en fait, on a lu un article du Wall Street Journal qui est paru cette semaine, et la société chercherait des moyens de monétiser ses jeux directement via des achats intégrés ou des publicités. En fait, déjà, si on est au courant de ces discussions, c'est parce que, officiellement, la culture de Netflix est de débattre de façon ouverte en interne de cette stratégie. En vrai, oui, c'est la fameuse idée des ballons sondes. C'est-à-dire qu'on balance l'idée, mais pas de façon officielle, bouche ça sort dans des articles, et on regarde à quel point les gens détestent.
À quel point les gens arrivent avec des fourches
voilà.
et des torches.
Exactement. Voilà. C'est, voilà. Donc, en gros, ça signifie pas que ça va forcément se faire, mais c'était vraiment pour mettre le pied dans l'eau.
Bah, surtout, ça veut dire qu'ils se posent la question de la rentabilité de l'ensemble.
Exactement. Bah, en fait, le truc, c'est que... Au lancement de la partie jeu par Netflix, le co-directeur général Greg Peters, en fait, disait que Netflix visait à permettre aux développeurs de publier du contenu sans se soucier de la partie monétisation. Voilà.
Ça faisait partie de l'abonnement.
Exactement. Cependant, l'entreprise pourrait revenir sur cette déclaration puisqu'elle recherche de nouvelles façons d'équilibrer la satisfaction client et la rentabilité. Parce que voilà, l'idée de mettre des jeux à disposition pour les abonnés, ça semble une bonne stratégie pour attirer des clients et les fidéliser. Force est de constater qu'aujourd'hui, et comme je l'avais dit il y a quelques mois, seulement 1% des abonnés utilisent réellement la fonctionnalité de façon quotidienne, bien qu'elle propose des titres vraiment très médiatisés. Parce que voilà, GTA, c'est du gros lourd, Tomb Raider, oui. c'est du lourd.
Alors, on a assez peu de... Enfin, c'est des jeux sortis il y a quelques temps déjà. On a assez peu de nouveautés au-delà des... En dehors, plutôt, des jeux à série, enfin, de licence... de séries qui diffusées par Netflix.
En fait, tu mets le doigt en fait sur en fait une problématique de cette offre là. En fait, c'est parce que on dit c'est 1%, ça représente quand même 20 millions de joueurs parce que bonjour, oui. je m'appelle Netflix, j'ai quelques abonnés.
Oui.
OK. Mais la société en fait, elle a dépensé plus $1 milliard pour acquérir les différents studios de jeux vidéo pour créer les titres originaux basés sur certaines des émissions originales et elle n'a pas encore vu de retour significatif sur investissement. Et l'article, ce qui est intéressant dans l'article du Wall Street Journal, c'était lorsqu'on fait une analyse démographique sur les utilisateurs. Pas de jeux vidéo sur Netflix, mais de Netflix de manière générale. Jeux les plus sollicités, ce sont des jeux du type Candy Crush.
Okay.
C'est-à-dire des jeux très grand public et surtout a fondamentalement fait pour les mobiles.
Oui. Oui.
Tu joues pas à Candy Crush sur ton PC ou sur ta console. Ça n'a pas d'intérêt.
Ouais, c'est pas. C'est possible.
Je dis pas que c'est pas possible. Je dis
mais,
que
bon.
Voilà, ce sont des jeux qui sont très populaires, qui sont très faciles d'accès,
très addictifs,
très addictifs.
Des méthodes internes de fonctionnement qui te donnent envie d'aller plus loin,
exactement.
Voire même de dépenser éventuellement pour continuer à jouer quand t'es bloqué.
Et qui attirent des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo d'habitude.
Qui sont pas des gamers comme on peut éventuellement le catégoriser et en parler ici régulièrement.
Exactement, là où tout ce que je t'ai cité comme jeu, en tout cas comme portage, ce sont des jeux, je vais pas dire the gamers parce que ce jeu là est stupide, parce que ce mot là est stupide, c'est plus en tout cas des gens qui sont habitués à la pratique du jeu vidéo, qui connaissent un peu l'actualité du jeu vidéo et qui sont habitués à y jouer.
Oui, c'est des jeux dont on a entendu parler parce qu'ils ont eu des prix. On parlait des Game Awards, ce genre de choses.
C'est
des jeux qui ont été cités à un moment ou à un autre, enfin pas tous, mais c'est cette catégorie de jeux-là.
Des jeux connus qui ont été traités dans la presse spécialisée.
Par exemple, ouais.
Il n'y a pas de critique de Candy Crush. Voilà.
Non.
Tu ne trouveras pas. Et en fait, c'est ça, c'est en tout cas, c'est ouais. une des choses qui est.
C'est là-dessus, en tout cas, que ça fonctionne. Ouais. Que leur offre attire du monde, c'est sur ce type de produit.
C'est ça. Et en fait, sachant que les jeux sont actuellement gratuits pour les abonnés Netflix, le service de streaming envisage également de développer des jeux à plus gros budget qui ressemblent à des jeux de console sur salon et qui seraient publiés à un prix unique premium. Donc en mm-hmm. gros, on fait un bon gros jeu qu'on vend 70 balles
sur mobile.
Sur console qui avec des budgets qui ressembleraient à ceux des consoles de salon. Donc
oui,
soit sur mobile.
Mais sur mobile.
Soit sur mobile, pourquoi pas. Mais okay. Ça paraît.
Bah, disons que si c'est pas déjà les jeux qui sont des jeux avec des vraies intentions de game design, de narration, de ce genre de choses, comme tu les as cités tout à l'heure, enfin comme certains que tu as cités tout à l'heure, mm-hmm. Est-ce que, enfin, si c'est déjà pas le public, est-ce que remettre une couche de pognon par-dessus, est-ce que ça va changer quelque chose ?
C'est ça. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant, les solutions dont on a entendu parler et qui ont fuité, c'était soit de faire de l'achat in-game, mm-hmm. sur lesquels Netflix toucherait une commission,
ouais.
soit de laisser mettre des pubs à l'intérieur des jeux vidéo,
okay.
soit de faire en sorte que certains jeux vidéo soit de base dans l'offre et de demander une rallonge.
Oui, une sorte d'accès premium.
D'accès premium pour d'autres jeux de meilleure qualité.
Ok.
Et l'autre solution, c'est de dire on a acheté plein de gens qui savent faire des jeux vidéo, faisons un putain de gros jeu vidéo que les gens achèteraient.
Ok.
Voilà. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mmh. Évidemment, comme je l'ai dit au début de mon intervention, on est sur du ballon-sonde.
Ouais.
Regardons comment les gens vont réagir. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que dans pas si longtemps, on aura une proposition de Netflix qui ne gardera pas intacte la proposition de base qui est effectivement très séduisante, qui est de dire maintenant que tu es abonné, tous les jeux, même des jeux mobiles qui à la base sont prévus avec des achats in-game, mmh. on bloque les jeux, les achats in-game sont bloqués.
Mmh.
Typiquement, moi je joue à un jeu qui s'appelle Kittens, qui est un jeu de match 3. En gros, c'est une sorte de Candy Crush.
Mmh.
Et il y a forcément des achats intégrés pour permettre d'augmenter de niveau, pour avoir des bonus, etc. La version Netflix bloque tous les achats.
D'accord. Alors, moi je pensais, tu disais la possibilité de mettre des pubs,
mmh.
c'est peut-être le modèle le plus, on va dire, accepté mmh. sur les jeux mobiles, de
ouais.
façon générale, enfin, jouer à un jeu gratuit, mais éventuellement devoir subir tant en temps des pubs, c'est un modèle qui est peut-être un des moins pires d'une certaine façon,
mmh.
Je suis pas convaincu que ça suffise à rendre la catégorie rentable.
Vu le marché de la publicité sur téléphone, je suis pas certain.
Bonne question, parce que pas comme tu disais, ça fait quand même 20 millions de personnes.
Je pense
que ça peut intéresser les annonceurs de toucher.
Oui, mais c'est pas 20 millions de personnes sur le même jeu, quoi. Donc voilà.
Et oui.
Donc c'est
pas faux.
C'est ça. Donc à suivre de près, mais bon voilà, en tout cas c'est toujours intéressant de s'intéresser au marché du jeu mobile, vu que quand on parle de jeux vidéo, on parle très souvent de jeux PC, de jeux console, mais on parle plus rarement
de jeux mobiles.
Et un
acteur comme Netflix,
ouais.
Qui est vraiment qui est très très peu médiatisé sur le sujet.
Mmh.
Comme tu le dis, elle a quand même déjà mis un milliard là-dedans, et c'est pas n'importe qui est capable de mettre un milliard dans un domaine qui pour l'instant a dû lui rapporter des clopinettes.
C'est ça.
Donc, il y a un moment ou un autre, en fait, ils vont faire un choix.
Oui,
ils vont plus loin, oui, ils ferment le robinet, mais.
C'est ça. Après, voilà, comme je disais, c'est le modèle à la base, c'était l'Apple Arcade. L'Apple Arcade, ça marche pas tant que ça.
Bizarrement, oui. Mmh.
Ça marche pas tant que ça. On verra. Mais on verra ça. Et vu qu'on parle de mobile, un jour je parlerai sûrement de l'Oyoverse, mais ça sera pour une autre fois.
Ah, c'est pour une émission entière là.
Il y a de quoi dire.
Ah, oui.
Il y a de quoi dire.
Complètement. Okay. Bah, écoute, merci pour ce tour d'horizon, en tout cas, de la situation actuelle de Netflix et puis des dernières infos qu'on a sur leur stratégie actuelle, enfin, ouais, leur stratégie à venir.
Et si on parlait d'un jeu gratos maintenant ?
Alors, je vais d'abord t'offrir l'intro la plus longue du monde.
Ça me va. Alors, je me mets dans mon canapé, deux secondes. Vas-y.
L'année dernière, 14 000 jeux sont sortis sur Steam. Parmi ceux-là, un des plus attendus et des plus profitables, on en a déjà parlé, c'est Starfield. C'est l'œuvre de Bethesda Game Studio, une entreprise américaine fondée en 2001 comme division de Bethesda Softworks, qui était à la fois un studio de développement et un éditeur, qui a été fondé par Christopher Weaver en 1986. Donc là, on remonte quand même vachement loin. Les premiers jeux de Bethesda Softworks, ils tournaient globalement autour de deux licences. Celle du légendaire hockeyeur Wayne Gretzky, avec le 1, le 2, le 3, entre 88 et 91. Et aussi celle de Terminator, puisqu'ils ont sorti différents FPS. The Terminator en 90, The Terminator 2029 en 92, Rampage en 93. Si je fais la liste, c'est qu'il y a une raison. Hein. Future Shock en 1995, qui est le premier jeu auquel a participé au sein de la société un certain Todd Howard. Et enfin, le dernier jeu qu'ils ont fait sur la série Terminator, c'était Skynet en 1996. Mais la série qui a véritablement fait entrer Bethesda dans la cour des grands, dans la cour des légendes du jeu vidéo, c'est celle des Elder Scrolls. Elle a commencé en 1994 avec The Elder Scrolls Arena, suivi en 1996 de Elder Scrolls 2, Daggerfall. Sur lequel le jeune Howard bosse comme concepteur.
J'ai l'impression que c'est surtout Daggerfall plus que Arena qui a fait péter le truc. Hein.
C'est bien possible.
Ouais.
La société, en tout cas, continue d'évoluer. En 99, elle devient filiale de ZeniMax Media, société fondée par Christopher Weaver, le même qui a fondé Bethesda, pour en faire en fait une subdivision, finalement. Et ZeniMax Media va racheter, avec le temps, de nombreux studios de développement. Arkane, ID Software, Tango Gameworks, qui sera, on en reparlera plus tard, mais en 2001, donc Bethesda Software crée Bethesda Game Studio pour séparer les fonctions développement et édition, et c'est sous ce nouveau nom qu'est développé The Elder Scrolls 3 Morrowind en 2002, ensuite Oblivion, le quatrième volet en 2006, et enfin le carton ultime Elder Scrolls 5 Skyrim.
2011 ?
En 2011, oui. Tout à fait. Qu'on ne présente plus tant illicité. Et depuis beaucoup trop longtemps, à mon sens, parce qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose et d'élever nos standards, du RPG en monde ouvert, en vue à la première personne.
Et adapté sur à peu près tout et n'importe quoi aussi.
Tout à fait. Et modé dans tous les sens.
Oh là là.
C'est devenu vraiment, encore aujourd'hui, en 2024, quand on voit un jeu de rôle en vue à la première personne, c'est le premier mot qui vient, en fait. C'est Skyrim, qu'est-ce que ça a de plus, qu'est-ce que ça a de moins. Enfin, on le compare à ce jeu, qui a vraiment tout... qui a tout changé, en fait. Enfin, c'était déjà leur série, leur maître étalon, quoi. Mais Skyrim a vraiment tout pété. Mais donc là, on est déjà en 2011, mais on va revenir en arrière un petit peu. Avant que Skyrim, donc, n'inonde le monde, avant que Bethesda ne rachète, puis manque de respect à la licence Fallout, avec le 3.
Est-ce qu'on peut ne pas parler de ça, s'il te plaît ?
Le 3, tu te souviens ?
Oui, non.
Le 4 et le 76 ?
Non, mais si tu veux, on peut même parler de l'entourloupe de
Non, mais ça va.
De New Vegas.
Non, mais justement, ils ont confié New Vegas à Obsidian.
Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Tu veux qu'on parle aux gens d'Obsidian, comment ils l'ont mauvaise sur celle-là
au
ou pas ?
Au moins, le jeu était pas si pire.
Non, parce que quelle arnaque. Alors, mais, super, meilleur jeu, hein, mais waouh.
Oui, oui, non, mais bon.
Quelle arnaque.
Mais revenons encore en arrière, bien avant donc la semi-déception que fut Starfield en septembre 2023, malgré ses ventes. Aujourd'hui, oui, voilà, il a rapporté masse de thunes. Mais les joueurs sont mitigés, on va dire, sur la qualité du jeu. Bon, bizarrement, hein, ils l'attendaient comme des fous furieux, puis ils ont payé tout de suite pour l'avoir en avance, hein, bref.
Les joueurs
l'attendaient comme un Skyrim dans l'espace.
C'est comme si Cyberpunk 2077 n'était jamais arrivé, quoi.
On va bientôt parler de The Day Before. T'inquiète. Et donc, revenons encore en arrière, avant que Bethesda ne soit connu comme un studio qui sort des jeux buggés jusqu'à la moelle en attendant que les fans règlent les problèmes bénévolement.
Et très heureux de le faire en plus.
Et très heureux de le faire en enrichissant donc l'expérience à coup de mode. Bref, retournons en 1996, comme tu le disais. Pour vous situer dans le temps, l'année des derniers essais nucléaires français, l'année de Wannabe des Spice Girls.
Je pensais que c'était 95.
Moi. L'année de Partir un jour des Too Biscuits.
C'était dur, mec.
Et 2 ans avant la naissance de Mbappé. Pour bien vous situer dans le temps. Tu vois, vraiment.
C'est vieux.
Voilà. Et donc, on se penche sur Daggerfall. Sur Daggerfall 2, donc le jeu dans lequel on a découvert donc le continent de Tamriel et plus précisément les provinces de Hyrok et de Hammerfell, donc un jeu gigantesque, un gigantesque bac à sable avec plus de 15 000 villes, villages, donjons à explorer, des guildes pour vous abreuver de quêtes, des maisons à acheter, des religions à adopter, enfin un monde incroyablement riche, varié.
La taille du jeu est stupide, sans déconner.
Voilà, était beaucoup trop grande, on est bien d'accord. Le système de combat au clavier souris était, j'ai envie de dire, ambitieux.
Ah, monsieur manie l'euphémisme oui. Avec brio.
Alors, moi j'avais écrit, tu vois, loin d'être parfait, mais en fait, non, c'est juste dégueulasse.
c'est horrible.
Mais le jeu avait quand même d'autres intérêts au niveau du système.
Et juste pour revenir, on était à l'époque où encore on se cherchait sur qu'est-ce qu'on fait à la souris, qu'est-ce qu'on fait au clavier.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire que c'était l'époque où il y avait encore des jeux qui disaient que pour bouger la caméra, on le fera au clavier.
Voilà.
Et que pour bouger le personnage, on le fera à la souris. Il y avait encore ça en 96.
Et
hein,
le système de combat, fallait cliquer, laisser appuyer, déplacer ta souris dans l'espace. Enfin, c'était.
Mais il y a eu des trucs.
Pour taper de haut, pour taper de côté. Enfin, c'était.
Ah oui, oui, il y a eu des choses.
Voilà. Ouais. C'était des très mauvaises idées qui n'ont heureusement pas survécu. Mais par exemple, dans le jeu, on pouvait créer ses propres sortilèges.
Oui.
On pouvait choisir des effets en fait pour créer son propre sort et bref. Voilà, la richesse des possibilités offertes par le monde ouvert. Le monde complètement ouvert, où il y avait vraiment une vie, où les magasins étaient ouverts de telle heure à telle heure, où les gens avaient un semblant, hein, évidemment, d'activité logique et cohérente.
Oui, ils étaient soit dehors, soit dedans, ou à telle heure, ils étaient à tel endroit, voilà. À telle heure, ils étaient à tel autre endroit.
On avait l'impression d'être dans un monde qui avait une vraie cohérence, en fait. Mm-hmm. Et donc, en fait, les richesses offertes par ce monde compensaient les nombreux bugs et autres défauts de game design, comme les donjons générés procéduralement, donc aléatoirement, beaucoup trop vaste ou rempli n'importe comment, enfin l'inconvénient de la génération aléatoire évidemment. En conséquence, donc en 96, les critiques furent ultra positives et les ventes furent massives. Alors je vais te donner un chiffre qui risque de te faire marrer, mais ils en ont vendu 700 000 boîtes entre 96 et 2000.
Non mais 1 million c'est un gigahit
à l'époque c'est
attends,
massif.
Si je dis pas de bêtises, le premier Half-Life ça doit être 1,5 million, un truc comme ça
en 98,
et c'est un gigahit.
Ah oui, complètement.
D'accord. Donc
mais donc oui, 700 000 à l'époque, c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable.
Faut voir le parc de PC qu'il y avait à l'époque, c'est pas rien à voir avec aujourd'hui.
Et donc pour les 25 ans de la franchise The Elder Scrolls, qui a commencé donc avec Arena en 94, en 2009, Bethesda a rendu gratuit Daggerfall.
Oui.
Et Arena, mais tout le monde s'en fout hein, globalement. C'est surtout Daggerfall finalement qui est resté dans les mémoires.
Oui, parce que Arena c'est quasiment un jeu textuel. Hein, donc...
ouais, c'est le même jeu, mais en beaucoup moins ambitieux. Enfin, en beaucoup plus petit. Il y a beaucoup moins de choses. Mais sinon, techniquement, il y a beaucoup de choses extrêmement proches. Il hein. Y a pas tant de différence dans le certaines choses.
Ah, dans mon souvenir, c'était un truc invitable. Mais ok. Mm.
Et donc, on arrive au sujet.
Je confonds avec les Ultima en fait.
Peut-être.
Je confonds avec entre Ultima 7 et.
Et les Ultima Underworld.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mm.
Et donc, on arrive au sujet de la chronique. J'avais prévenu hein, l'intro la plus longue du monde.
T'inquiète, c'était salutaire. Ça m'a fait plaisir, perso.
Et donc, depuis bien avant que ça, mais l'arrivée du jeu, enfin le fait que le jeu ait été rendu gratuit par Bethesda, a lancé aussi plusieurs projets de refaire le jeu avec par les fans au fil des années. Et il y en a quelques-uns, mais on va passer finalement sur tous ces projets qui n'ont pas réellement abouti. Celui qui a provoqué ce sujet donc aujourd'hui, c'est Daggerfall Unity. Développé sous le fameux moteur Unity dont on a déjà parlé, celui qui vient de licencer 1800 personnes.
On en parlera plus tard.
25% du personnel, quand même. Sans que les deux informations soient liées. Hein.
Non,
voir entre l'un et l'autre.
Mais on parlera du cas Unity, et de.
Voilà, bientôt.
Voilà, et de comment une mauvaise décision a été largement assumée par les preneurs de décision.
Oui, c'est ça. En licenciant ceux qui avaient pas pris la décision.
Exactement.
Ouais. Comment ça s'appelle? Le capitalisme, c'est ça?
Exactement.
Voilà. Donc la première version de Daggerfall Unity, donc le portage du jeu sur ce moteur de jeu, a été plus ou moins lancé en alpha en 2019. Le projet a officiellement, a continué à évoluer et a officiellement été déclaré complété, donc terminé, le 31 décembre 2023, donc il y a moins de 2 semaines. Et alors à l'époque, en 96, à sa sortie, j'ai passé quelques dizaines d'heures sur Daggerfall. J'en ai quelques souvenirs assez vagues, d'interminables donjons, des heures passées, mais alors vraiment, littéralement des heures sur la création de personnages, qui est extrêmement complète, en fait. Il y a beaucoup de choses de possibles, il y a différentes races, il y a différentes origines, il y a différentes. On répond à des questions, etc., pour créer un petit peu son personnage. J'y avais passé vraiment clairement des heures. Je me souviens aussi beaucoup des bugs complètement aléatoires, hein, des trucs qui te font cracher le jeu, des trucs qui fonctionnent pas du tout.
Moi, ce que j'aime bien, c'est les trous dans la map. C'est-à-dire que tu es en train de marcher, et puis il y a un trou qui fait qu'il y a t'as une chute infinie.
Voilà, c'est ça. C'était sympathique, c'était rigolo.
Et des trucs aléatoires comme ça. Et entre guillemets, c'est devenu ma signature.
Bah, c'était un jeu Bethesda. Ouais, c'est qu'est-ce ça. Que tu veux que je te dise.
C'est bon, la signature.
Ils en ont vendu des paquets. Ils n'allaient pas changer leur façon de faire.
Ce serait con. Les joueurs seraient déçus.
Mais du coup, là, ce qui reste malgré tout, malgré ça, c'est une vraie sensation d'immensité. Dans le monde, peut-être trop, évidemment. Enfin, à partir du moment où tu sais plus quoi faire parce que tellement c'est grand, voilà. Mais en même temps, une vraie liberté, ce qui était en 96 rare. Réussir à mettre ça sur les supports, les supports de l'époque.
Ça devait être sur un ou deux CD en plus, même pas.
Même pas. Enfin, c'était quand même une sacrée performance et un univers finalement qui était quand même assez travaillé. Comme je disais, il y avait des religions, des quêtes, des villes, des villages. Il y avait beaucoup de choses. Qui ont finalement fait la réputation et la fascination qu'il peut y avoir pour l'univers Elder Scrolls, de Arena à Daggerfall, en passant par Morrowind jusqu'à Skyrim. Et du coup, pour les besoins de la cause, hein, évidemment, parce que journalisme total, j'ai installé Daggerfall Unity hier soir. Alors, ça apporte un certain confort.
Est-ce que c'est beau?
Ça apporte un certain confort. Alors c'est un tout petit peu plus lisse qu'à l'époque. Ouais. Ça gère, par exemple, les écrans modernes.
D'accord.
À l'époque, on jouait sur des 15 pouces. Quand on avait de la chance, on jouait sur un 17 pouces en 640x400. Enfin bref.
Moi j'allais dire plutôt 320, mais ok.
Ouais, voilà. Alors ils jouaient sur un 27 pouces aujourd'hui, ça pique un peu les yeux.
Oui.
Mais non, ils ont fait des efforts effectivement à ce niveau-là, même au niveau de la gestion des contrôles clavier-souris modernes. Mm-hmm. Il y a des améliorations. Les graphismes sont légèrement améliorés et il y a un grand nombre de mods qui peuvent être ajoutés pour rendre le jeu, on va dire, regardable aujourd'hui. Donc oui, j'ai passé une soirée dessus. Alors globalement, comme dans tous les Elder Scrolls, on commence dans un donjon. Dans certains, c'est des prisons. Là, c'est un donjon dont on doit trouver une sortie. Globalement, je suis mort à la première porte que j'ai ouverte. Hein. On croise des rats et des
classique de l'époque.
Et tu te fais défoncer la gueule par des rats et des chauves-souris. Bon. Mais à l'époque, je sais que j'avais réussi à en sortir hein, de ça. Donc bon, est-ce que je suis beaucoup plus nul qu'il y a 25 ans?
Je pense que t'es beaucoup moins patient, en fait.
C'est possible. Mais en tout cas, c'est intéressant comme voyage dans le temps pour voir un petit peu comment ça, ce qui se faisait avant. Clairement, c'était pas mieux avant, hein, mais il y avait des bonnes idées, des bonnes façons de surmonter certaines limitations techniques éventuellement. Enfin,
d'aborder les challenges aussi, la question du challenge aussi. Ouais.
Et c'est aussi un bon moyen de toucher du doigt la qualité du travail effectué sur cette version Unity, en fait, sur cette adaptation d'un jeu sur ce modèle-là. Alors, on en parlait entre nous avant l'émission. Les développeurs insistent pour que vous ne jouiez pas à la version de Daggerfall Unity. Nommé GOG Cut, qui est disponible sur le magasin Good Old Games GOG, mais bien de partir du jeu de base et d'installer leur version Unity.
Voilà, parce qu'il est disponible soit sur Steam, soit directement sur Battle.net. Si
et également sur Good Old Games.
La
version originale de Daggerfall est aussi disponible sur Good Old Games. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, comme dans tout jeu Bethesda, pour rendre le jeu plus intéressant, plus beau et tout ça, n'hésitez pas à installer des millions de mods pour personnaliser ou améliorer l'expérience. Même des mods qui modifient les règles, le contenu, etc.
Bah, c'est comme ça que ça marche.
Voilà. Mmh. Et donc, si j'ai commencé par vous dire que 14 000 jeux étaient sortis sur Steam en 2023, c'est pour montrer que la production de jeux vidéo, elle est quand même incroyablement diverse. Et englobe plusieurs logiques, plusieurs méthodes parce que là, je viens, voilà, il y a beau y avoir 14 000 jeux qui sont sortis l'année dernière. Je vous parle d'un jeu qui
est sorti il y a 25 ans.
Qui est presque 27 maintenant. ça n'en, voilà.
Attends, 2006, non, quasiment 30 en fait.
Ouais, enfin 85.
quasiment 30, ouais. c'est chaud.
Et, mais, voilà, la pléthore d'offres, l'offre pléthorique sur Steam aujourd'hui n'empêche pas des fans de bosser bénévolement. Pour nous permettre de profiter d'un titre sorti il y a presque, donc, ouais, comme tu dis, presque 30 ans. Et ça ne m'empêchera pas non plus, moi, de vous le recommander, comme je le disais, comme capsule temporelle, comme les fans des Elder Scrolls, de Skyrim, etc. pourraient être. Ça leur donne une porte d'accès, en fait, à cet univers-là, plus facile à franchir qu'avant.
Oui, et puis vous avez du temps avant Elder Scrolls 6, vous avez un peu de temps. Hein, donc,
oui, c'est pas prévu tout de suite.
Donc vous pouvez tuer le temps avec un peu de Daggerfall, il y a pas de souci.
Pourquoi pas, ouais, effectivement. Donc si vous aimez les jeux de rôle et le rétro gaming purgé de certains défauts de l'époque, pas tous, hein, bah vous avez la possibilité de prendre un moment pour visiter Tamriel, et en plus le gros avantage c'est que ça tourne sur n'importe quel tréteau.
L'avantage, oui, c'est sûr, même si vous avez un vieux portable qui peine à faire tourner Windows, et ben je suis sûr que ça tournera
bien, se passer.
Yes. Et ben merci.
Et donc c'est disponible sur dfworkshop.net. Daggerfall-Unity-1-0-Release.
Et si je pense que si vous mettez Daggerfall Unity, vous trouvez sur Google, vous trouverez facilement
le projet.
Exactement. Et ben merci à toi.
Bah de rien. Ça me semblait important de revenir du début parce que Bethesda, ils sont.
Ah mais tu as vraiment, pour le coup, t'as bien fait. Et puis en plus, ça tombe bien, je suis un bon public de vieux, donc ouais. Là-dessus, je suis assez friand.
Et tu vois, des fois, comme quoi, ça se voit quand je travaille.
En parlant de travail, tu sais qu'on a travaillé aussi pour un autre projet ?
Alors oui, enfin surtout moi, parce que c'est moi qui ai fait le tableau, mais toi t'as fait que le remplir.
Ouais, bah c'est bien. Alors pourquoi on vous parle de ça ? C'est que il se trouve que le mercredi 24 janvier prochain aura lieu le premier événement que nous allons organiser. Donc ça s'appelle le Press Start, parce que ça se passera au Troquet chez les Tartes. Donc c'est rue Fernand Rey, juste à côté de la place Satonnet, dans le premier arrondissement de Lyon, à partir de 20h. On vous propose une soirée où il y aura des quiz
et un blind test
sur les thèmes, la thématique des jeux vidéo. On va essayer on va essayer de faire ça de façon régulière dans l'année, mais là voilà, ça sera notre première pour ce mois de janvier. On remercie d'ailleurs le Troquet chez les Tartes et Sabrina de nous accueillir là-bas. Venez à partir de 20h, on va bien s'amuser, on va jouer.
Sur les jeux de toutes les époques.
Toutes les époques.
Et les musiques de toutes les époques, et même des fois des musiques liées aux jeux vidéo. Plus ou moins directement.
C'est ça, où on avait oublié que c'était lié à du jeu vidéo.
Parfois.
Tiens. Exactement.
Et puis des fois, ça vient directement des jeux vidéo.
Et oui, aussi. Et donc voilà, donc vous venez, c'est gratos.
N'hésitez pas à réserver quand même.
Ouais, réserver, ouais. Vous pouvez contacter directement le bar chez les Tartes pour réserver votre table.
Le plus simple, c'est éventuellement sur Insta, c'est ça ?
Ouais,
sur Instagram.
Sur Insta ou sur Facebook, ouais.
Chez les Tartes du 1.
Ouais, c'est ça.
Sur Insta. Sur Facebook, c'est chez les Tartes.
Tout simplement.
Et on rappelle, donc c'est place Fernand Rey, dans le premier, juste à côté de la place Satonnet.
Exactement. Et donc,
très heureux de vous accueillir. Il y aura éventuellement peut-être des trucs à gagner plus que de simplement rigoler.
Voilà.
Tous ensemble.
Exact. Mais oui, vous allez pouvoir vous amuser et gagner des trucs.
Et puis même manger des tartes.
Ah, et c'est pareil, d'excellentes tartes en plus. Exact. Et voilà.
Quand même un peu le concept.
En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette émission du nerf de la game. Est-ce qu'on on se retrouve la semaine prochaine ? Moi, je suis pas dispo, mais
Peut-être.
Eh ben, écoutez, si Romain se sent chaud, il pourra vous parler de jeux vidéo, vous reparler peut-être un peu plus précisément de ce qu'on fera la semaine du 24, la semaine du 24 janvier chez les Tartes. Et en attendant, eh bien, soyez curieux, jouez bien.
Passez une bonne semaine.
Ciao.
Salut.